De ceux qui veulent devenir riches, non pas tant de ceux qui sont riches, mais de ceux qui veulent devenir riches. Ils tombent dans la tentation, dans un piège, dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. C'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Les frères, hier, ont fait remarquer avec insistance combien le fait d'aimer quelque chose peut être préjudiciable pour nous. En fait, celui qui est l'objet de tout notre amour, de toutes nos affections, c'est le Seigneur Jésus. Et s'il y a d'autres objets qui viennent remplir notre cœur, il n'y a plus de place pour lui-même. Et parmi ces autres choses, il y a l'argent, l'amour de l'argent, qui est une racine de toutes sortes de maux. Ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi, ils se sont éloignés de ce chemin de la vérité chrétienne, de cette révélation que Dieu nous a faite à l'aurore du christianisme. Et c'est à cette révélation que notre foi s'attache, Voilà pourquoi le terme foi a cette signification plusieurs fois dans la parole, dans les épîtres pastorales, l'épître de Jude qu'on nous a rappelé hier également. Ils se sont égarés de la foi, se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Alors en contraste, l'apôtre s'adresse à Timothée en l'appelant de ce nom remarquable, « Mets-toi au homme de Dieu, fuis ces choses dont je viens de parler. » Mais alors, poursuis d'autres choses, et notre attention a été attirée sur ces vertus que nous avons à poursuivre. Tout d'abord la justice, au milieu d'un monde injuste, recherchant et faisant ce qui plaît à Dieu, ayant en horreur l'iniquité qui peut s'attacher à nos voies. Et puis la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. Et comme on l'a justement fait remarquer, c'est pas parce que des vertus telles que la patience, la douceur d'esprit sont mentionnées en dernier lieu qu'elles ont une importance mineure, certainement pas. La patience, la douceur d'esprit, tout le monde le réalise, ont une valeur égale à la justice, la piété, la foi et l'amour. Homme de Dieu, c'est donc Timothée, qui dans le Nouveau Testament seul est appelé de ce caractère-là, « Ô homme de Dieu ». Il est évident que de nombreux serviteurs de Dieu ont réalisé ce caractère, ils ont été des hommes de Dieu. Et que dire de notre Seigneur lui-même, qui selon le psaume 16 déjà, a été d'une façon absolument parfaite sur cette terre, cet homme de Dieu. Tandis que nous regardons vers les hommes de Dieu qui nous sont mentionnés dans l'Ancien Testament, immanquablement nous allons au-delà, nous allons jusqu'à celui qui a été l'homme de Dieu par excellence, notre Seigneur lui-même. Mais toi, ô homme de Dieu, dans l'Ancien Testament, alors, les hommes de Dieu sont mentionnés, même nombreux, mais il en est sept seulement dont le nom est connu. Les autres nous sont présentés, mais sans que nous connaissions leur nom. À l'intention de jeunes qui désirent les noter, nous le rappelons très brièvement. Quels sont ces hommes de Dieu dans l'Ancien Testament dont nous connaissons le nom? C'est Moïse, Deutéronome 33, et puis le psaume 90, dans sa suscription, prière de Moïse, homme de Dieu. Nous avons ensuite Samuel, homme de Dieu, un homme considéré, tout ce qu'il dit arrive infailliblement, 1 Samuel 9. Ensuite David, en 2 Chroniques 8, est appelé homme de Dieu, et à la fin du livre de Néhémie aussi. Puis nous avons Shemaïa, qui a été envoyé vers Roboam, 1 roi 12. Et puis alors, en effet, Élie et Élisée, en 1 roi 17 et en 2 rois 8, Élie et Élisée sont appelés les hommes de Dieu. Et enfin, un homme de Dieu dont nous ne parlons pas souvent, en Jérémie 35, Jigdalia, homme de Dieu est-il positivement dit? C'est à sa descendance qu'appartenait un appartement dans la maison de l'Éternel, et c'est là que se sont trouvés les fils de Rechab, selon ce chapitre 35 de Jérémie, qui est d'une extrême instruction pour nos âmes. Voilà les hommes de Dieu dont parle l'Ancien Testament. Timothée avait, après, en réalisant de telles vertus, il avait à combattre le bon combat de la foi. D'une part, ce bon combat de la foi a été défini comme étant ce combat que l'on a à soutenir pour revêtir de tels caractères. À cet égard, nous sommes ramenés à Éphésiens 6, où il est parlé de l'armure complète de Dieu que nous avons à revêtir. Et d'autre part, le bon combat de la foi est ce combat précisément pour le maintien de la vérité chrétienne. Cette vérité chrétienne, c'est importante dans les épîtres à Timothée et à Tite. Combat le bon combat de la foi, et puis alors saisis la vie éternelle. Cette exhortation est présentée un peu comme étant, disons, le couronnement de ce combat, le combat de la foi. Alors, saisis la vie éternelle. La vie éternelle nous est présentée sous deux jours, ce qui est connu de chacun. Un jour présent, c'est essentiellement l'enseignement des écrits de l'apôtre Jean, qui croit au Fils à la vie, nous possédons la vie éternelle du moment que nous croyons au Seigneur Jésus, c'est une possession actuelle. Et puis, la vie éternelle est présentée sous un jour futur, nous tendons vers la vie éternelle. Eh bien, Timothée devait saisir cette vie éternelle, c'est-à-dire jouir de toutes les bénédictions qui sont comprises dans cette acception remarquable, la vie éternelle. Toutes les bénédictions qui se rattachent à la vie éternelle, Timothée est exhorté à les saisir dans l'attente du jour où alors nous entrerons en pleine possession de la vie éternelle. La vie éternelle, nous le répétons, présentée sous ce jour futur. Saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé et tu as fait la belle confession devant beaucoup de témoins. Timothée avait donc fait, il avait rendu témoignage à cette vie éternelle devant beaucoup de témoins. À quelle occasion, devant qui, la parole de Dieu ne nous le dit pas. Une chose est certaine, c'est que Timothée avait été un témoin actif et courageux à l'endroit de la vérité chrétienne et en particulier de la vérité de la vie éternelle. Je t'ordonne devant Dieu qui appelle toutes choses à l'existence et devant le Christ Jésus qui a fait la belle confession devant Ponce Pilate, voilà, le Seigneur Jésus est mis en évidence, lui a fait cette belle confession devant Ponce Pilate. Eh bien, Timothée, tu as marché sur les traces de ton maître, tu as fait de même, continue, persévère, comme ton Seigneur un jour l'a fait devant Ponce Pilate, comme les évangiles, l'évangile selon Jean, entre autres, nous l'enseignent. Eh bien, je t'ordonne devant le Dieu qui appelle toutes choses à l'existence, que, et en même temps devant le Christ Jésus qui a fait la belle confession devant Ponce Pilate, que tu gardes ce commandement. Ce commandement, c'est tout d'abord ce que l'apôtre vient d'enseigner en disant que nous devons réaliser la justice, la piété et les autres vertus mentionnées. Et puis, d'autre part, ce n'est pas seulement cela, en fait, le commandement dont il est parlé ici, c'est les enseignements, les exhortations de la première épître à Timothée tout entière. Du reste, n'oublions pas qu'il est parlé d'une ordonnance ou d'un mandat dans le premier chapitre de cette épître. À la fin de cette épître, l'apôtre revient en fait à cette ordonnance en parlant d'un commandement. Timothée, à la fin de cette épître, est exhorté à garder ce commandement sans tâche, irrépréhensible, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà une exhortation, chers frères et sœurs, qui nous est adressée à tous. Nous aussi, nous avons à garder sans tâche, sans la moindre souillure, nous avons à garder d'une manière irrépréhensible, d'une manière où on ne peut rien reprendre, quoi que ce soit, aucun reproche ne peut être formulé. Voilà comment nous avons à garder les enseignements et les exhortations de cette première épître à Timothée, sans tâche, irrépréhensible. Dieu ne parle pas seulement à Timothée, nous l'avons réalisé durant ces différentes réunions. Maintenant, dans les séries de réunions précédentes, nous avons réalisé que Dieu s'adresse à nous tous. Nous tous, nous recevons cet ordre de garder ce commandement, les enseignements de cette épître, sans tâche, irrépréhensible et jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ.
Il y a un court passage qui précise les deux sens de la vie éternelle dont il vient d'être fait mention. pensons qu'on peut les considérer dans Romains 6, où nous avons ce court verset qui termine le chapitre. Mais maintenant, c'est un des maintenant essentiels de l'Épître, ayant été affranchi du péché, de la source qui produit les mauvaises choses, de l'arbre qui donne les mauvais fruits, vous avez été affranchi du péché dans votre mort avec Christ, et asservi à Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté, et pour fin, la vie éternelle, pour couronnement, à la fin de cette vie, avec Dieu, pour Dieu, pour fin, la vie éternelle. Et le verset 23 ajoute, « Car le salaire ou les gages du péché, c'est la mort, mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle, vie actuelle, que nous recevons par la foi, sur la base de l'œuvre de Christ, passer de la mort à la vie, qui croit au Fils, a maintenant la vie éternelle. Pour fin, couronnement de tout, la vie éternelle, et d'autre part, la vie éternelle possédée maintenant par le croyant dès qu'il est venu au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ.
La vie éternelle, dans ce sens, nous lie à la gloire. L'apôtre Jean, qui nous présente la vie d'abord parfaite dans la personne du Seigneur Jésus, et puis qui nous la montre dans les épîtres, dans ses épîtres, comme étant la part du croyant, il nous dit, quiconque croit au Fils a la vie. Ça c'est sûr. Mais n'oublions pas que l'apôtre Paul a été arrêté et converti par un Christ qui était dans la gloire. Et tout son but de Paul, c'était d'atteindre un tel Christ. Et dans sa pensée, et nous voyons dans ses épîtres toujours, que la vie éternelle, c'est quelque chose que nous saisirons là-haut pleinement dans la gloire, qui aura tout son développement dans la gloire, là où est notre Seigneur. Nous avons la vie éternelle dans des vases de faiblesse. Elle ne se manifeste pas comme elle, elle ne manifeste pas ce qu'elle est. Mais là-haut, quand nous aurons revêtu des corps glorieux, alors toute la vie éternelle, dans toute sa plénitude, ainsi sera manifestée. C'est l'un des, justement, des deux pensées différentes, dans un sens, de l'apôtre Paul et de l'apôtre Jean. Parce que, ils ont été instruits, enseignés d'une manière différente.
Présenté aussi dans ce, sous cet aspect en Jude, verset 20. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. La vie éternelle en gloire. Et en attendant la possession de cette vie par la venue du Seigneur, nous avons bien besoin de ce qui précède, savoir sa miséricorde.
Ça a été appelé. On a remarqué que l'appel dans le Nouveau Testament est toujours pour un ordre de choses célestes. Dieu a appelé des hommes à son service dans les jours d'autrefois, avant que je te formasse dans le ventre, je t'ai connu, Jérémie, hein, je t'ai appelé. Dieu appelait des hommes qu'il qualifiait pour un service qu'il désirait leur confier. L'appel dans le Nouveau Testament est toujours en relation avec des bénédictions et un ordre de choses célestes. Dieu nous a prédestinés à être rendus conformes à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. et ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, et déjà pour Dieu c'est une chaîne d'or, ils sont glorifiés. Mais nous avons été appelés d'un saint appel pour jouir de la vie éternelle, en gloire, en association vivante avec le Christ, ressuscité, vainqueur de la mort. La vie éternelle pour laquelle tu as été appelé, un appel céleste.
Et aussi ce mot saisir qui est exprimé à deux reprises. D'abord au verset 12 pour Timothée, saisis la vie éternelle, et ensuite pour les riches au verset 19, afin qu'ils saisissent ce qui est vraiment la vie. C'est la responsabilité de ceux qui, justement, ont la vie éternelle, de ne pas l'oublier, de la saisir, c'est-à-dire d'être capable de réaliser à chaque moment de leur vie ce qu'elle est pour eux. Il y a dans ce verbe « saisir » une idée de vivacité, une idée de force aussi. Il faut sans doute avoir cette vertu dont parle l'apôtre Paul pour saisir et cette vie éternelle pour Timothée et aussi pour les riches, saisir ce qui est vraiment la vie.
Trouve celle qui vient d'être développée dans Philippiens 3, un verset intéressant à joindre à celui qui a été cité, qui a été commenté. Verset 11, si en quelque manière que ce soit je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts, à quelque prix que ce soit, non que j'ai déjà reçu le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis, cherchant à le saisir. Bien le sens de responsabilité qui vient d'être souligné, cherchant à le saisir, vu aussi que j'étais saisi par le Christ. Il y a les deux choses, je cherche à saisir parce que d'un autre côté, j'étais saisi par le Christ.
Et une chose, l'être tout entier y est. Saisir une chose, c'est en somme entrer dans la connaissance de tout ce que comporte cette vie éternelle. C'est d'en jouir comme par avance et de trouver dans cette jouissance et dans cette connaissance qui est liée et dans cette bénédiction qui est liée à la vie éternelle les forces en effet nécessaires, morales et spirituelles pour traverser les difficultés, les combats. Pour l'apôtre, pour Timothée, combien c'était, ça le soutenait dans les combats qu'il avait à connaître, en ayant tout son cœur engagé vers ces choses éternelles et vers la gloire.
Ce qui est dit à Timothée ne s'applique aussi à nous et aux chrétiens de tous les temps. Car chaque croyant est appelé à cette vie éternelle. Et elle a saisi. Mais aussi, il est appelé, comme nous le voyons après, à confesser cette vie éternelle. Et qui d'entre nous n'estimerait pas nécessaire de confesser que non seulement nous possédons cette vie éternelle, mais nous savons que par elle, les bénédictions éternelles nous sont réservées et nous seront accordées. L'apôtre Paul avait confessé devant beaucoup de témoins. Ce sont des témoins qui étaient des croyants. Il n'y avait donc dans ce milieu aucune hostilité. Il était relativement facile à Timothée de confesser de cette vie éternelle. Mais pour nous qui sommes dans un monde hostile, est-ce que nous n'avons pas aussi à confesser que nous avons de cette vie éternelle et que nous l'attendons dans sa plénitude? plusieurs d'entre vous, chers amis et chers jeunes amis chrétiens, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, vous allez quitter vos foyers, quitter votre rassemblement et vous trouver pour vos études, pour votre travail peut-être, pour le service militaire, devant un milieu tout nouveau. Quelle doit être, dans ce cas-là, l'attitude du croyant et de celui qui veut être fidèle? Non pas que nous ayons à crier à tort et à travers, mais la parole nous invite précisément aussi à saisir l'occasion pour que nous n'hésitions pas à confesser que nous aussi, par grâce, nous avons la vie éternelle et que nous attendons sa plénitude. Que le Seigneur vous accorde, chers amis, chers jeunes amis, qui allez être dans ces circonstances, à la fois le désir, mais aussi la capacité de rendre confession devant ceux, ces étrangers, devant lesquels vous allez vous trouver. Voyons dans les évangiles ce qu'il est dit de ces confessions. Et nous pourrions ouvrir notre Bible, tout d'abord dans l'évangile de Luc, et au chapitre 9, et au verset 26, lire ceci. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Lisons encore dans le chapitre 12e et au verset 8. « Quiconque m'aura confessé devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. » Cette confession peut nous amener à connaître l'opprobre, effectivement. Mais que savons-nous de ceux qui ont connu cet opprobre? Et nous pouvons nous reporter à ce que nous avons dans le livre des Actes au chapitre 5, où il nous est raconté un épisode de l'histoire des disciples. Ils furent enfermés en prison, délivrés miraculeusement, mais traduits ensuite devant le Sanhédrin parce qu'ils avaient été repris au temple. Et celui-ci, sous les exhortations de Gamaliel, décidèrent de relâcher les apôtres. Mais ce chapitre nous dit qu'ils les relâchèrent après les avoir battus. Ainsi relâchés, les apôtres s'éloignent. Où il nous est raconté un épisode de l'histoire des disciples. Ils furent enfermés en prison, délivrés miraculeusement, mais traduits ensuite devant le Sanhédrin parce qu'ils avaient été repris au temple. Et celui-ci, sous les exhortations de Gamaliel, décidèrent de relâcher les apôtres. Mais ce chapitre nous dit qu'ils les relâchèrent après les avoir battus. Ainsi relâchés, les apôtres s'éloignèrent. Mais il nous est dit, en se réjouissant d'avoir été estimés dignes de souffrir l'opprobre pour le nom de Christ. Voilà un précieux encouragement pour ceux qui demain peut-être seront confrontés avec les ennemis du Seigneur. D'autant plus que, répondant à la foi des siens, le Seigneur peut aussi, car il en a la puissance, fermer la bouche de ses opposants devant une telle confession et reconnaître ce qui est vraiment une réelle piété.
Habituellement, on entend parler de Timothée comme étant un jeune homme, ce qui est tout à fait relatif. Il est certain que Timothée avait en tout cas 40 ans, qu'il était fragile de santé, qu'il était peu courageux. Eh bien, la parole nous montre ici qu'une hardiesse particulière lui a été accordée et combien l'apôtre Paul aime à le relever. Tu as été appelé, la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé, et tu as fait la belle confession devant beaucoup de témoins. Il fallait du courage pour le faire. Timothée a eu cette hardiesse, elle lui a été donnée, cette hardiesse si caractéristique des serviteurs de Dieu, selon le livre des Actes des Apôtres. On sait comment, à la fin du chapitre 4e, les apôtres demandent à Dieu toute hardiesse pour pouvoir parler de sa parole, et il y a jusqu'à la fin du livre comme un septuple exaucement accordé à cette prière. À cette reprise, on voit que les serviteurs de Dieu ont agi avec hardiesse ou hardiment, et c'est pratiquement le dernier mot du livre des Actes des Apôtres. Timothée a donc connu cette hardiesse, il a fait cette belle confession devant beaucoup de témoins. Et l'apôtre Paul poursuit en disant « Je t'ordonne devant Dieu qui appelle toutes choses à l'existence » et devant le Christ Jésus qui a fait la belle confession devant Ponce Pilate. Le Seigneur Jésus avait fait une belle confession, et Timothée marche sur les traces de son divin maître, et à son tour, il lui est donné également de faire une belle confession. Où l'avons-nous, cette confession, à la fin des évangiles? Citons un passage pour ne pas prendre trop de temps, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 18e. Le Seigneur Jésus peut dire, Pilate tout d'abord, au chapitre 18, au verset 37, dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis que moi je suis roi. » Moi, je suis né pour ceci, et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Et alors, nous avons la suite du récit, comment le Seigneur s'en est allé. Mais le Seigneur fait cette belle confession, je suis né pour ceci, et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. C'est ce que le Seigneur Jésus avait fait, lui-même étant la vérité, il le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'était une belle confession devant le gouverneur romain, devant Ponce Pilate. Eh bien, l'apôtre rappelle cette belle confession de notre Seigneur Jésus-Christ pour encourager Timothée à persévérer dans un tel chemin, le chemin de la vérité, à y marcher sans tache et d'une manière irrépréhensible. Ce verbe est très fréquemment mentionné dans cette première épître. Dans cette première épître, qu'avons-nous? Nous avons une ordonnance, premier chapitre, une ordonnance donnée de Dieu à l'apôtre. À son tour, l'apôtre ordonne. Il ordonne à Timothée telle ou telle chose. Et à son tour, Timothée reçoit, pour ainsi dire, cet ordre d'ordonner. Ordonne, comme il est dit au verset 17, ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle. Véritablement, ce verbe ordonner donne un cachet particulier à cette épître et une ordonnance qui n'a rien à faire avec les ordonnances de Sinaï, de la loi de Moïse, faut-il le dire? ordonnance convenante à l'économie de la grâce. Du reste, au chapitre 1er, rappelons ce passage. Au premier, il est dit ceci, au verset 5, ce qui donne toute l'importance de cette ordonnance. Verset 5 du premier chapitre, la fin de l'ordonnance, c'est l'amour. C'est l'amour qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Voilà l'ordonnance en rapport avec l'économie de la grâce. La fin, le but de l'ordonnance, c'est l'amour.
La belle confession, elle ne pouvait être autrement. Elle ne pouvait avoir un autre caractère de la part de celui qui est plus beau que tous les fils des hommes. Et cette confession qui a Christ pour objet ne peut être également que belle, ainsi que Paul la qualifie à l'égard de Timothée qui a fait la belle confession. On a souvent remarqué l'application que nous trouvons d'Ésaïe 53, mené comme un agneau à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche. Et nous avons dans les évangiles, dans les quatre évangiles, sept témoignages du fait que le Seigneur n'a pas répondu à ses accusateurs. Jésus a gardé le silence devant les mensonges, les calomnies, les accusations les plus véhémentes, tel point que le souverain sacrificateur s'en étonnait et lui disait, mais ne réponds-tu rien, n'entends-tu pas de combien de choses il rend témoignage contre toi? Mais Jésus garde le silence. Ésaïe annonçait, il n'a pas ouvert la bouche. Sauf deux fois, devant Caïphe, pour confesser sa gloire divine, lorsqu'il entend la voix d'abjuration, et comme nous venons de l'entendre, pour confesser sa gloire messianique, sa gloire royale devant Pilate. Seigneur alors a répondu à la fois à Caïphe et à la fois à Pilate. Mais c'était signé son arrêt de mort.
Des souffrances et de l'opprobre qui s'y rattachaient, on peut lire quelques passages dans la seconde lettre du même apôtre à Timothée. Au verset 12, je souffre ces choses, mais je n'ai pas de honte. Chapitre 1er, verset 12. Chapitre 2, de la seconde à Timothée, verset 9, j'endure des souffrances jusqu'à être lié de chaînes comme un malfaiteur. Toutefois, la parole de Dieu n'est pas liée. Chapitre 3, on voit avec insistance, l'apôtre y revient. Verset 10, mais toi, tu as pleinement compris, et au verset 11, mes persécutions, mes souffrances, telles qu'elles me sont arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystre, quelles persécutions j'ai endurées. Chapitre suivant, il parlera de la gueule du lion. La belle confession.
Au Galate, il dira, je porte en mon corps les marques du Seigneur Jésus. Il n'y a pas besoin de beaucoup de paroles pour confesser le Seigneur. Le cœur qui est rempli de Christ amènera le croyant dans le silence à un comportement et une attitude qui montreront qu'il n'est pas de la terre mais du ciel. On les reconnaissait pour avoir été avec Jésus, les premiers chrétiens. Ici, dans les passages cités, il n'est pas question de parole. C'est ce que Paul a enduré pour Christ. Nous en sommes loin.
Ne peut y avoir appel plus solennel, plus incisif que celui de Paul à Timothée en appelant à Dieu dans toute la majesté de son être, invoquant sa puissance en création comme Elohim. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il en appelle à Dieu dans sa prééminence, dans sa majesté, dans l'excellence de sa grandeur comme Dieu créateur, créateur des cieux et de la terre, Dieu que les cieux des cieux ne peuvent contenir. J'ordonne, j'en appelle à Dieu qui appelle toute chose à l'existence. Hébreux 11, tout a été amené à l'existence par la puissance de la parole de Dieu. Aucune place, si minime soit-elle, à l'idée d'une évolution quelconque. Au commencement était la parole. La parole était Dieu, elle était auprès de Dieu, et c'est par elle que toutes choses ont été faites, et sans elle, rien de ce qui existe n'a connu le jour. J'en appelle à Dieu, dans la puissance, dans l'excellente puissance qui le caractérise. Et n'est-ce pas aussi une chose très remarquable, et devant le Christ Jésus. Et nous pouvons dire, Paul place sur un pied de parfaite égalité Dieu dans sa majesté et le Christ Jésus. Pour lui, bien souvent, c'est ainsi qu'il appelle le Seigneur, le Christ Jésus. Nous ne trouvons pas que les autres apôtres qui ont connu le Seigneur sur la terre emploient l'expression de cette manière. Ils parlent de Jésus-Christ. Ils ont connu Jésus sur la terre. Ils ont connu celui qui a pris ce nom en venant dans ce monde. Tu appelleras son nom Jésus. Et ensuite, ils l'ont vu ressusciter. Et Pierre dira, Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. L'ordre pour eux, c'est d'abord Jésus, vu comme homme, dans son anéantissement, dans son abaissement sur la terre. Épître aux Philippiens, chapitre 2, entre autres. Tandis que pour Paul, c'est Christ qu'il a arrêté sur le chemin de Damas. Il a connu Jésus comme étant le Christ glorifié, n'a pas connu Jésus sur la terre. D'où pour lui le renversement des termes, le Christ Jésus. C'est Jésus qui l'a arrêté sur le chemin de Damas, mais c'est Christ, l'homme oint, glorifié, que Dieu a exalté à sa droite. C'est depuis le ciel qu'il est arrêté par le Seigneur, par le Christ, Jésus.
Dieu est révélé dans ses versets, dans toute sa gloire, dans la lumière inaccessible dans laquelle il se trouve, dans toute sa puissance. Tout ce que nous venons de voir dans cette épître, toutes ces exhortations viennent de qui ? Viennent d'un tel Dieu. Quand il nous est dit que l'apôtre ainsi peut dire à son Timothée, qu'il lui donnait l'ordre d'enseigner ces choses pour la manière dont il fallait se conduire dans la maison du Dieu vivant. Alors, ces exhortations qui viennent d'un tel Dieu, quelle valeur doivent-elles avoir pour nos cœurs? Et avec quelle attention nous devons les entendre, et avec quelle persévérance nous devons les réaliser, puisque c'est un tel Dieu qui s'abaisse ainsi à nous donner de telles exhortations, de tels enseignements, pour que tous ensemble et chacun en particulier, nous soyons comme des hommes de Dieu, des représentants de Dieu dans ce monde.
À la suite de ce qu'on vient d'entendre concernant ce nom de Jésus, du Christ Jésus, de Jésus-Christ, n'y a-t-il pas quelque chose à retenir de ceci? Saul de Tarse, converti, se relevant, remis de sa cécité, que fait-il? Il commence donc par prier d'une part, par servir Dieu, et qu'est-ce qu'il fait? Il annonce que Jésus qu'il a appris à connaître sur le chemin de Damas, que Jésus est le Fils de Dieu. N'est-il pas remarquable qu'il fallait lire le livre des Actes des Apôtres jusqu'au chapitre 9e avant d'entendre parler pour une première fois du Fils de Dieu? Il y a des discours de l'apôtre Pierre, et combien élevés, mais l'apôtre Pierre ne parle pas du Fils de Dieu. Il n'emploie pas un tel titre pour parler de Jésus, pour parler du Christ Jésus, bien entendu. C'est le grand sujet de ses discours, et spécialement Christ ressuscité. Mais le Fils de Dieu, cette expression-là, nous l'avons pour la première fois dans la bouche de l'apôtre Paul, Saul de Tarse, quand il est converti. La première chose qu'il proclame, c'est que ce Jésus qu'il a sauvé, ce Jésus est le Fils de Dieu. Jusqu'au chapitre 9 du livre des Actes, il faut lire avant d'entendre parler de ce titre glorieux, infiniment glorieux de Jésus, qui n'est personne d'autre que le Fils de Dieu. Il est parlé dans notre passage de celui qui appelle toute chose à l'existence, et l'on vient de placer devant nous les gloires infinies et insondables tout à la fois qui appartiennent à un tel titre de Dieu. On se souvient peut-être que quand nous avons commencé l'étude de cette première épître à Timothée, nous avions relevé ces caractères de Dieu dans cette première épître. Dans les épîtres à Timothée, il n'est pas parlé du Père, il n'est pas parlé de Dieu le Père, sauf bien entendu dans la salutation, bénédiction de la part de Dieu le Père, mais dans le corps même de l'épître, il n'est jamais parlé de Dieu le Père. Mais d'un autre côté, il est parlé alors du grand Dieu sauveur, et d'un autre côté, celui qui est le Dieu vivant, auquel appartient l'Assemblée, l'Assemblée du Dieu vivant. Voilà pourquoi, d'une part, dans la première épître à Timothée, nous avons le sujet du grand salut de Dieu, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, et d'un autre côté, le grand sujet de l'ordre qui convient à l'Assemblée de Dieu en marche sur cette terre. Chacun des chapitres, au moins une fois, nous parle de la gloire d'un tel Dieu. Au chapitre premier, nous avons le Dieu bienheureux, l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. L'évangile, c'est cela, c'est pas moins que cela, c'est cela, l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Et si nous étions davantage conscients de celui qui est l'auteur d'un tel évangile, peut-être qu'aussi plus respectueusement et avec plus de discrétion et aussi avec plus de révérence, nous parlerions d'un tel évangile, nous annoncerions un tel évangile en n'oubliant jamais qu'il est l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Au chapitre 2e, il est le Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et au chapitre 3e, clé de voûte de l'enseignement de l'Épître, Dieu manifesté en chair. C'est là le mystère de la piété qui sans contredit est grand. Au chapitre 4e, nous avons Dieu qui est le conservateur de tous les hommes, spécialement les fidèles. Et au chapitre 5, début de notre méditation lundi passé, nous avons ce Dieu devant lequel l'apôtre adjure Timothée, devant Dieu, devant le Christ Jésus, devant les anges élus. Et cela en rapport avec l'ordre qui convient à l'Assemblée, et l'Assemblée du Dieu vivant, et d'une façon particulière en rapport avec notre comportement, notre attitude vis-à-vis des anciens dans l'Assemblée. Et nous arrivons au chapitre 6e, avec ce titre non moins glorieux de notre Dieu, le Dieu qui appelle toutes choses à l'existence. Le Créateur.
Ne retrouvons-nous pas cette pensée du Dieu qui appelle toutes choses à l'existence dans le livre, premier livre des Chroniques, au chapitre 29, lorsque David bénit l'Éternel, et à partir du verset 11, « À toi, Éternel, est la grandeur et la force et la gloire et la splendeur et la majesté, car tout dans les cieux et sur la terre est à toi. À toi, Éternel, est le royaume et l'élévation comme chef sur toutes choses, et les richesses et la gloire viennent de toi, et tu domines sur toutes choses. »
Considérer quand nous pensons que David est à la fin de sa vie. Ce sont comme de dernières paroles adressées par le serviteur à celui qui a été toujours son maître, ce grand Dieu des cieux dont le fils Salomon dira « le grand Dieu des cieux que les cieux des cieux ne peuvent contenir ». Dans ces dernières paroles, nous avons cette magnifique louange à l'adresse de Dieu. C'est beau de finir sa vie ainsi, de mourir ainsi, de parler ainsi de Dieu peu avant de mourir.
Ce qui a révélé à tel Dieu, même dans tous ces chapitres que nous avons vus, donc, c'est Jésus. L'Évangile. Par qui est-il venu ? Par Jésus. L'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Car quand Dieu fait une chose, il l'a fait pour se glorifier. Qui est-ce qui a révélé ce Dieu sauveur qui ne veut pas que les hommes périssent ? C'est Jésus. Qui est-ce qui a révélé Dieu dans un homme ? C'est Jésus. C'est Jésus. Et qui est-ce qui révélera justement tous ces caractères de Dieu que nous voyons dans ces expressions remarquables qui nous échappent ? Ce sera Jésus dans sa gloire comme fils de l'homme lors de son apparition. C'est pourquoi il ne faut bien prendre en adorant ces versets, ce verset remarquable de l'évangile de Jean. Personne ne vit jamais Dieu. Il habite la lumière inaccessible. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître.
Arrivé à ce point de l'étude, nous pourrions chanter l'hymne premier.
deux raisons, deux motifs pour qu'il garde ce commandement. La première, c'est que Dieu est le Dieu tout-puissant, la puissance éternelle, le grand Dieu créateur qui a appelé toutes choses à l'existence. Et puis la deuxième, c'est l'amour du Christ Jésus marchant vers la croix, car il est question de Ponce Pilate. La puissance éternelle de Dieu et l'amour du Christ Jésus qui s'est donné lui-même pour nous.
Que cette énumération si impressionnante de toutes les gloires de Dieu est ici en fonction de celui qui l'a révélé. C'est ce Dieu, le bienheureux et seul souverain, le roi de ceux qui règnent, le seigneur de ceux qui dominent. C'est lui qui, au temps convenable, révélera, montrera l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire qui témoignera de cette gloire nouvelle que son Fils a acquise en révélant le Père à ceux qui ne le connaissaient pas.
L'un des côtés les plus merveilleux de cette révélation de Dieu